J'aimerais apporter la parole de Dieu ce matin et continuer sur, ou terminer la série qu'on a fait à plusieurs voix depuis le 14 octobre, Marcher avec puissance. Et j'aimerais juste redire quelques points de la semaine dernière, parce que je sais que c'est toujours utile une petite récapitulation. Hein, mais si jamais vous pouvez toujours écouter les messages sur le site internet, bien sûr. Alors, nous avions dit la semaine dernière que marcher avec puissance, c'est marcher par l'Esprit en étant convaincu qu'il est la puissance de résurrection. Donc, j'ai vraiment voulu la semaine dernière vous faire saisir qu'il y ait une révélation de l'Esprit qui vous fasse comprendre qu'il est puissance. Il est puissance en vous. Marcher avec puissance, c'est aussi marcher en fixant mon regard sur celui qui habite en moi et non pas sur mes propres faiblesses et impossibilités. Et puis, on avait pris l'exemple d'une bouteille, puis j'avais dit, on ne regarde pas au contenant, mais au contenu. Hein, c'est le contenu qui fait la différence entre deux bouteilles, c'est la valeur de ce qu'il y a dedans, et ce n'est pas le contenant. Donc, c'est très important de ne pas regarder, de ne pas nous arrêter face à nos faiblesses et impossibilités. Et puis, marcher avec puissance, c'est aussi marcher avec courage et non plus avec crainte, afin d'oser expérimenter la puissance de l'Esprit qui vit en moi. C'est clair que l'esprit, la crainte est contraire à l'Esprit de Dieu complètement, parce que la Bible le dit déjà, mais vous le voyez certainement si vous avez peur, vous avez de la peine à exprimer la vie de l'Esprit. Mais la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais qui est aussi crainte, c'est le même mot, mais un esprit de force ou de puissance, d'amour et de sagesse. Amen. Voilà, peut-être je parlerai lentement aujourd'hui parce que j'ai une petite nuit. Alors, si vous... Non, je vais m'endormir, ne vous inquiétez pas. Vous me connaissez quand même. Bon, je vous avais même laissé un petit défi, même un gros, parce que j'ai mis petit défi, le défi de la semaine, mais j'ai réalisé que c'était peut-être un gros. J'ai été un peu, audacieux. J'avais donné ce défi-là, oser expérimenter sa puissance en priant pour une personne chrétienne ou non qui a un besoin en lui imposant les mains. Alors, je ne sais pas, je ne vais pas regarder si vous avez des devoirs faits ou bien faits, parce que ce n'est pas des devoirs, d'accord ? Est-ce que quelqu'un ose timidement dire qu'il s'est aventuré à prier pour quelqu'un cette semaine ? Il y a quelques personnes, alléluia, super. Levez les mains là, soyez, vous pouvez être contents là. Cool, bravo, et je suis sûr que le Saint-Esprit a agi, que Dieu a agi dans cette prière. Et je vous encourage à continuer. Et peut-être à tous les autres, osez, c'est pas juste une fois. Malheureusement, je sais que parfois la prédication reste, il y a le dimanche, puis il y a la celle d'après. Mais non, la vie de l'Esprit doit continuer. Marcher avec puissance, c'est une marche continue. Voilà, et aujourd'hui j'aimerais rappeler que marcher avec puissance, c'est marcher par l'Esprit. Donc bien sûr, marcher avec puissance, c'est marcher par l'Esprit, ça c'est ce qu'on a défini ensemble. Mais c'est marcher par l'Esprit dans la liberté. Et tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant va bien dans la ligne de ce message. Je crois que plusieurs personnes ce matin ont besoin d'entendre cette vérité que nous avons un Dieu qui libère. J'ai mal dormi et je me dis qu'il y a quelque chose ce matin. Il y a quelqu'un dans ce lieu qui doit entendre cela. Parce que là, ça a été dit 2, 3, 4 fois déjà. Donc je m'attends à Dieu ce matin et j'espère que vous aussi. Alors je crois pleinement que lorsque nous marchons par l'Esprit, ou plus nous marchons par l'Esprit, plus nous devenons libres. Libres du péché, libres des règles religieuses, de parfois nos cultures ecclésiales nous ont transmises, libres d'être nous-mêmes, libres d'aller à contre-courant, parce que je crois que c'est ce que nous sommes appelés à faire. Libres aussi d'espérer là où il ne semble plus avoir d'espérance. Libre d'aimer celui que l'on nous décrit comme pas aimable. Ça, je crois que l'Esprit nous donne cette liberté-là. L'Esprit de Dieu nous communique aussi ce qui est sur le cœur de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Il transforme notre manière de voir et de penser. Il met en nous les principes et la mentalité du royaume de Dieu. Donc la vie et la joie dans le royaume de Dieu s'expriment librement, complètement. Puis après, ça arrive en nous, par l'Esprit. Puis nous, on est un peu étriqués. Des fois, il y a quelqu'un qui disait, qui souriait intérieurement, mais que finalement, là, on n'était même plus sûr qu'elle était dans la joie, hein, tellement elle souriait bien intérieurement. Donc non, là, quand on reçoit ces choses là, de Dieu, du ciel, par l'Esprit Saint, alors ça doit s'exprimer librement. Et plus on y goûte, plus ça devient présent en nous. On commence à l'exprimer naturellement, spontanément, librement. Et je crois que c'est très puissant lorsque de la vie, de l'esprit commence à s'exprimer comme ça dans notre quotidien. Quand on est libre et naturel pour exprimer la vie de l'esprit en nous. Et ça, c'est le but. Et j'ai surtout pas envie que marcher avec puissance, vous dites, ah, mais c'est un truc de religieux ou de chrétien fondamentaux. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui s'incarne dans votre vie tous les jours. Tous les jours, vous pouvez marcher avec puissance dans votre quotidien. Juste en recevant ce que l'Esprit vous donne et en l'exprimant librement, naturellement, sans faire de chichi. C'est-à-dire, ça vous semble peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais non, vous recevez quelque chose, dites-le de la part du Seigneur, par exemple, et à d'autres manières. Et j'aimerais lire avec vous ce verset dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Juste un verset, vous vous dites super, mais en fait il y en aura plein d'autres après. 2 Corinthiens 3, 17 qui nous dit « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors on connaît bien, je pense, ce verset. Et puis, j'avais vraiment à cœur de parler de la liberté, et puis je me dis bah, « Super, j'ai déjà un verset. » Puis quand je suis allé un peu fouiller, j'ai réalisé que ce n'était pas exactement à quoi je m'attendais. Et en fait, si Paul dit cela, c'est parce qu'en fait, l'Esprit met en action l'œuvre libératrice de Christ en nous. Donc en fait, cette affirmation, c'est pas juste... des fois, on prend ça un peu comme un argument pour vivre ce qu'on veut. Hein, puis on dit, ouais, bah, là où est l'Esprit, la liberté. Et puis voilà, ça peut nous donner une vie complètement déréglée. De toute façon, on s'en fiche, on est la liberté. Hein, c'est pas ça que l'Esprit dit. Et que la parole dit, et c'est complètement christocentrique. Alors, peut-être que pour certains, c'est des choses que vous connaissez, mais comme je l'ai dit, il me semble qu'il y a quelque chose que Dieu veut dire à une personne ce matin. Donc là où il y a l'Esprit, il y a l'œuvre de Jésus. Déjà ça, là où il y a l'Esprit, il y a l'œuvre de Jésus. Jésus qui nous a libérés de l'esclavage du péché, de la mort et de la loi. Et avec ce verset, en fait, Paul fait référence juste un petit peu avant aux Juifs qui ont l'intelligence obscurcie. Et il dit au verset 14, « Jusqu'à aujourd'hui, en effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. » Donc, eux, les Juifs qui n'ont pas reconnu le Messie, continuent à observer la loi, des règles pour être acceptés de Dieu. Et puis, alors que Jésus est venu nous libérer. Donc, il a accompli, vous savez ces choses, il a accompli l'exigence de la loi en mourant sur la croix, par amour, pour nous, afin de nous libérer de toute condamnation. Il nous a libérés de toute condamnation. Nous ne sommes plus esclaves du péché et de la mort, mais nous sommes libres. Donc, il faut comprendre que Dieu avait donné de bonnes lois pour la vie de son peuple. Quand je dis « il nous a libérés de la loi », peut-être vous dites « ah bon ?» Bon, il n'est pas venu abolir la loi, il est venu l'accomplir. La loi était bonne pour la vie de son peuple. Des lois pour leur offrir un chemin loin du péché, pour être juste, pour être un peuple mis à part, différent des autres peuples. Mais le cœur de l'homme était incapable, vraiment incapable de respecter la loi de Dieu. À cause de quoi ? À cause du péché, à cause de sa nature profondément pécheresse. Et si nous sommes incapables de respecter la loi, alors... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes pécheurs. La loi nous met le péché en face. Donc nous sommes pécheurs, coupables aux yeux de cette même loi et condamnés. Donc la loi, bien que bonne et juste, elle donne la mort. Et Paul le dira aussi dans ce même chapitre, au verset 6, il dit « C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. » La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. Alors heureusement, par l'œuvre de Christ, nous ne sommes plus esclaves du péché, de la mort, car il est mort à notre place, lui qui était sans faute. Il a gagné le combat contre le péché, il a vaincu la mort par sa résurrection. Et lorsqu'on reconnaît Jésus comme sauveur personnel, ce qu'il a accompli, ce n'est pas juste une action pour l'humanité, il n'est pas juste mort pour tous les hommes. Lorsqu'on reconnaît ce qu'il a fait, ça vient pour moi, c'est pour mon nom à moi. Jésus a vaincu le péché, la puissance du péché et la mort pour moi, pour toi, pour vous, pour chacun de vous. Mettez votre prénom là. Donc nous sommes au bénéfice de la grâce. Et je reçois l'Esprit de Dieu en moi qui vient activer cette liberté dans ma vie. Donc là où il y a l'Esprit, il y a aussi Christ. L'Esprit met en action l'œuvre de Christ dans ma vie. Il n'y a plus de condamnation, mais la liberté. Je peux être en relation avec Dieu sans voile, venir avec à lui tel que je suis, justifié, pardonné. Et dans le même chapitre que nous avons déjà lu par Pino et Maurizio, au début de ce chapitre 8 de Romains, il est dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit-Saint qui donne la vie par Jésus-Christ t'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Donc c'est important de souligner que c'est l'Esprit-Saint qui met en œuvre l'action l'œuvre de Jésus dans nos vies. C'est lui qui permet que ça devienne réalité pour toi. Parce que Jésus m'a peut-être libéré de l'esclavage du péché et de la mort, mais si l'Esprit ne vient pas transformer ma mentalité, si l'Esprit ne vient pas changer mon cœur, rien ne va vraiment changer. C'est pour ça que l'Esprit est important. Ce n'est pas seulement l'œuvre libératrice de Jésus, mais sans l'Esprit, il n'y a pas cette activation dans notre vie. Il vient actionner ça en nous, en vivant en nous, en commençant à conduire notre vie à la place de notre propre nature, nous qui sommes pécheurs. Donc c'est la loi de l'Esprit, comme il est là, versus la loi du péché. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté, car il actionne l'œuvre libératrice de Christ en moi. Alors, je vais essayer de résumer ça avec une petite image. Imaginons que la loi soit remplacée par la loi de la circulation routière. Hein, comme ça vous parle un petit peu mieux. D'accord ? Donc, nous devons respecter la loi de la circulation routière. Dieu l'a donnée. Bon, il faut quand même se soumettre aux autorités, ça c'est vrai. Voilà. Mais la réalité, c'est que je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Je passe au rouge. Je m'enfile dans les sens interdits. Mais prenez ça pour votre vie. Hein. Imaginez, ça marche assez bien. Hein. Il y a des choses que Dieu nous met, mais je passe au rouge. Je m'enfile dans les sens interdits. Ça, je suis sûr que ça vous est tous arrivé. Voilà. Je m'arrête là où je ne dois pas stationner, soit en double file ou sur la place qui est réservée, etc. etc. Alors bien sûr, je m'excuse. Mais rien à faire, je recommence. Puis au bout d'un moment, je finis par être condamné à une lourde amende. Une amende, j'ai tellement fait d'erreurs que je vais devoir payer toute ma vie. Ce qui va me priver de vivre ce que j'avais à vivre. Parce que je vais devoir payer cette amende. Puis là, quelqu'un me propose de payer à ma place. Ah, super, hein ? Cette personne est la seule qui n'a jamais fait d'erreur de conduite. C'est le seul qui sait conduire parfaitement, respecter toutes les règles de cette circulation-là. Alors bien sûr, je dis oui. Et ça, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Mais maintenant, si j'arrête l'histoire ici, une fois l'amende payée, qu'est-ce qui va changer ? Ben, rien du tout. Je vais continuer à conduire en faisant les mêmes erreurs. Le seul moyen pour que quelque chose se passe, c'est que cette personne qui conduit parfaitement bien vienne dans ma voiture pour m'aider à changer ma manière de conduire. Je peux pas faire sans. Autrement, c'est la même chose. Ça, on va tourner en rond. Et ça, c'est le travail du Saint-Esprit. C'est lui qui permet que l'œuvre de Jésus prenne sens dans nos vies et que je vive réellement libre, sans condamnation. Et plus je laisse le Saint-Esprit me diriger, plus je gagne en liberté. Il y a une réalité, c'est que l'ennemi aimerait toujours nous garder captifs. Mais c'est bien parce que Jésus a été oint pour libérer les captifs. Donc ça, c'est bien. Hein. Mais il veut toujours, je l'ai souvent dit, c'est un mauvais perdant. Alors que ce soit par le péché en tout genre, mais ça peut être aussi par la peur. Il est dit dans la prière, ça peut être par la culpabilité. Ça peut être par la honte. Ça peut être par le rejet. Toutes ces choses sont de l'ennemi. Et Jésus a aussi gagné là-dessus. Et il veut vous libérer. Et plus je laisse le Saint-Esprit me diriger, plus je vais être victorieux dans ces combats-là. Ils sont incompatibles avec l'Esprit du Seigneur. Car là où il est, il y a la liberté. Il n'y a pas l'esclavage. Il n'y a pas la loi du péché. Il n'y a pas ces mensonges. Et c'est aussi peut-être important de rappeler ou de réaffirmer que vous avez été libéré du péché et que de la puissance du péché et que par le Saint-Esprit, vous avez reçu la force pour y renoncer. J'ai parfois l'impression que on baisse un peu les bras, quelquefois. C'est plus le péché qui devrait diriger notre vie, vos vies. Vous n'avez plus à être soumis au péché parce que vous avez été libéré. Donc ne le tolérez pas dans votre vie. Ne vous résignez pas en disant bah, « finalement, on est quand même tous pécheurs, donc qui lancerait la première pierre hein ?» okay. Apprenez à marcher par l'Esprit dans la liberté qui nous est acquise en Christ. Il est là le défi. Parce qu'en Galates 5, 16, il est dit « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de votre propre nature, donc de votre nature pécheresse. » Donc le défi, ce n'est pas de ne pas avoir de péché ou de ne pas pécher. Ce n'est pas ça le défi. Des fois, c'est ça qu'on fait. Mais c'est de marcher par l'Esprit. C'est ça, c'est complètement différent. D'être conduit par l'Esprit, marcher par l'Esprit, c'est ça qui va vous permettre d'être pleinement libéré de la puissance du péché dans vos vies parce que l'Esprit met en action la liberté acquise par Christ dans votre vie. Vous avez l'autorité et la puissance pour dire non. Amen. 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 Alléluia. Là où est l'esprit est la liberté, parce qu'il nous libère de nos règles inutiles. En Galates 5, 1, il est dit « Le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon et ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. » Tenir ferme dans la liberté nous paraît plus simple que de tenir ferme face à la tentation. Hein, si je le dis comme ça, dites, bah oui, tenir ferme face à la tentation, ça c'est dur. Mais en fait, tenir ferme dans la liberté, ce n'est pas facile du tout. Parce qu'on peut facilement retomber dans nos pièges du passé. On peut facilement se remettre sous des règles humaines, religieuses, légalistes. Il est facile aussi de se laisser enfermer par nos propres situations, nos mentalités. Et cela nous prive de la pleine liberté acquise en Christ. Et même parfois, on enferme nos enfants avec nous. Dans le contexte de cette lettre aux Galates, des prédicateurs itinérants, des groupes de personnes donc, sont venus de l'extérieur et puis ils ont commencé à semer la confusion dans l'Église en affirmant qu'il fallait tout de même pratiquer la loi de Moïse et spécialement la circoncision. Circoncision. C'est un mot difficile. Hein. Ça fait mal quand j'y pense. Non, mais il semblerait qu'au huitième jour, c'est le meilleur moment. Voilà. Donc, il leur disait, vous voulez être des chrétiens, très bien, mais il faut être circoncis. Donc, c'était un débat énorme hein, qui a donné lieu au premier concile de Jérusalem en 49. Et puis, Paul, lui, avait clairement reçu le mandat d'apôtre des non-juifs, des gentils, comme on les appelle aussi, des païens. Et c'est pour ça qu'il avait quitté Jérusalem pour implanter des églises en Galatie. Et c'est, on peut dire, c'est la Galatie, c'est la région qui ceinture aujourd'hui la ville d'Ankara, si ça vous intéresse. Mais d'un coup, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces non-juifs ? Et Paul affirme clairement que leur appartenance au peuple de l'Alliance ne dépend pas de la loi, mais de leur union à Christ. Alors que les judaïsants, eux, disaient, mais la pratique de la loi de Moïse est nécessaire pour être un bon chrétien. Je suis gracié, mais quand même, il faudrait suivre la loi pour plaire à Dieu. C'est ça qu'ils disaient. Et je vais faire un petit parallèle avec nos vies. Combien d'entre nous avons grandi avec cette éducation religieuse pleine de règles qui dit c'est bien, c'est pas bien, il ne faut pas. Des règles qu'on ne trouve pas là-dedans. Il faut mettre une cravate pour aller à l'église. Il faut être bien habillé. Hein, voilà, ben, ça, vous êtes tous beaux, mais ça va, standard. Cool. Voilà. Je me suis donné de la peine exprès. J'ai encore pas mal de chemin à faire. Hein. Mais c'est vrai, des fois, des principes comme ça, il faut être beau, il faut être bien habillé. Je peux vous dire que ce genre de choses a même empêché des non-chrétiens de venir dans les églises. Parce qu'ils se sont sentis tellement lamentables. Ils se disent, ah mais ça c'est les chrétiens, regarde, ils sont super, ils sont tout parfaits, ils sont nickel. Je ne peux pas venir au milieu d'eux. On n'y pense pas à ça. Hein. Il faut lire la Bible tous les jours. Ben oui, je vous encourage à lire la Bible tous les jours, mais certains c'est devenu un tel dogme que finalement ils en sont juste culpabilisés, déçus d'eux-mêmes, convaincus d'avoir déçu Dieu parce qu'ils n'ont pas réussi à lire la Bible tous les jours. Il faut prier avant de dormir. Peut-être que vous avez une règle comme ça à la maison. Parce qu'autrement, votre nuit, peut-être qu'elle ne va pas être bénie. Vous n'allez pas bien dormir. Mais je vous encourage de prier matin, soir, continuellement. Priez, soyez dans la présence de Dieu. Mais est-ce que ça doit être une règle qu'il faut prier avant de dormir? Pas sûr. Je m'engage que moi. Je vous laisserai réfléchir. Et puis, ben, surtout, en tant que chrétien, etc., il faut être gentil, il faut toujours sourire. Hein, on ne peut pas être triste. Hein, d'accord, ça, c'est interdit. Hein, un chrétien, il sourit, etc. Je vous ai peut-être déjà raconté ce gag où il y a une famille qui rentre de l'église, et puis dans la voiture, l'épouse dit à son mari, « C'est bon, chérie, tu peux arrêter de sourire. » Voilà. Mais voilà, il faut sourire, hein, il faut paraître. Non, surtout pas. Et puis, il faut être sérieux. À l'église, on n'a pas le droit de rire. Hein, il y a des choses comme ça. Il y en a qui ont grandi avec cette réalité-là, qu'à l'église, on ne peut pas rire. C'est sérieux. On est la maison de Dieu. Ben, je vous dis que Dieu aime la joie et l'humour. Il aime bien qu'on rigole. Il aime aussi nous entendre rire. Amen. Ben, vous n'avez pas trop de peine ici. Je pense que sinon, je serais reparti assez vite. Voilà. Bon, on a tous des règles comme ça, héritées, qu'on ne sait peut-être pas toujours d'où, des principes, qui sont des fois pas faux en soi, mais qui peuvent être un blocage, un frein dans notre relation avec Dieu, qui peuvent être aussi un obstacle si on les impose aux autres. Et là aussi, j'ai une illustration toute simple, c'est que dans une grande église qui n'est pas du tout proche de la nôtre, quelqu'un est entré avec une casquette. Et puis là, il y en a qui me regardent comme ça, avec une casquette, ah là là là. Et puis, il est resté avec sa casquette. Et puis, la personne qui s'occupait d'accueillir les gens, de regarder qu'ils aient une place, et ben elle est venue vers cette personne, puis elle lui a frappé la visière, comme ça. Style, ben ici, on ne met pas la casquette. Puis le gars, il a remis sa casquette. Puis le gars, il revient. Puis il refait pareil, puis il ne lui parle même pas, il ne lui explique pas. Le gars, il a pris sa casquette, puis il est parti. C'était la première fois qu'il venait dans une église. Première fois. Mince, hein? Parce qu'on a un principe qui dit que, par révérence, il faut se découvrir la tête. Mais est-ce que l'Esprit de Dieu n'aurait pas pu toucher ce garçon avec sa casquette? Franchement. Nous sommes les pros pour nous mettre sous des règles, alors que Jésus nous a libérés et nous a donné son esprit pour que nous marchions dans cette liberté. Il n'y a plus non plus de règles à suivre pour plaire à Dieu si son esprit habite en toi et te conduit. Je l'ai dit, tu as été pardonné, tu as été justifié par l'œuvre de Jésus. Il n'y a rien, mais rien de rien que tu peux rajouter à cela. Il n'y a rien que tu peux rajouter pour plaire à Dieu. Pas besoin de faire des bonnes actions pour mériter son pardon ou son amour. Mais si tu écoutes le Saint-Esprit, ta vie va s'aligner, automatiquement elle va s'aligner sur sa volonté. Puis ça, bien sûr, ça va réjouir le cœur de Dieu, évidemment. Mais ce n'est pas toi qui dois fournir des efforts pour plaire à Dieu, parce que c'est déjà fait. Tu ne peux rien rajouter à ça. Tu peux juste écouter l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu feras, tu vas le faire par amour et non plus par devoir. Comme chaque année, on vit une semaine de jeûne et prière et elle sera au début de janvier. On aime bien commencer, c'est l'année civile avec le jeûne et la prière. Mais est-ce que je vais jeûner pour être un meilleur chrétien? Bien sûr que non. Mais parce que, au même titre que je prie, au même titre que je donne, Jésus dit « jeûner ». Il m'appelle à jeûner. Et je vais le faire avec joie, avec amour, convaincu par l'Esprit et dans la liberté. Et je ne vais pas être condamné si je ne le fais pas. Je ne vais pas être condamné si sur les 5 jours, j'en fais qu'un ou j'en fais deux. Je ne vais pas être condamné si je manque juste un repas. Ça n'a rien à voir. C'est quelle est notre démarche de cœur en connexion avec l'Esprit de Dieu. Je n'aurai pas moins de valeur. Il ne va pas moins m'aimer. Alors il nous semble parfois simple d'inventer des règles plutôt que de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous. Mais nous avons la possibilité de nous approcher du trône de grâce avec assurance. Il y a aussi ce verset auquel j'ai repensé dans 1 Jean 3, 20-21 qui dit « En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Donc parfois c'est notre cœur qui nous condamne, mais à quelque part c'est nous-mêmes. Mais Dieu est plus grand que notre cœur. Lui ne nous condamne pas. Et si on lâche, si on accepte, on se laisse libérer par l'œuvre de l'Esprit en nous, alors on a de l'assurance devant Dieu. Et même ce terme veut dire, il y a la notion de liberté. Nous sommes libres de parler devant Dieu. Si je traduis littéralement. Donc là, nous sommes libres de parler devant Dieu, parce que nous sommes libérés de cette condamnation qui n'a pas lieu d'être. Donc on peut venir à Dieu tel que nous sommes. Je peux venir en tant que Luc, voilà, je suis Luc, né de nouveau, c'est vrai, conduit par l'Esprit, mais imparfait par définition. Par contre, je suis libre de toute condamnation, libre de toute loi. Ne serait-ce pas dommage de remplacer ou limiter l'action de l'Esprit en nous par toutes sortes de règles, ou de fausses pensées, ou de ces culpabilités, de ces sentiments de rejet, etc. Alors l'Esprit ne nous donne pas des règles. L'Esprit ne nous dit pas « ne fais pas ci, ne fais pas ça », mais il met en nous la vie de Dieu. Il met en nous l'amour de Dieu. Il met en nous la pensée de Dieu, afin que de nous-mêmes, nous accomplissions ce qu'il désire par son esprit en nous. Donc en lui laissant la place, en le laissant transformer ta mentalité, ton cœur, ta vision, tu n'as plus besoin de panneaux de signalisation pour reprendre mon image de tout à l'heure. La loi que Dieu a donnée, je l'ai comparée à cette loi sur la circulation routière, mais si l'esprit est avec toi, il ne va pas juste t'aider à respecter les panneaux. L'Esprit de Dieu, il n'est pas juste là pour te dire « fais gaffe, arrête-toi là ». Je vais prendre des exemples concrets. Il n'est pas juste là pour te dire « ici, il faut que tu donnes ». Il n'est pas juste là pour te dire « tu ne dois pas frapper ton ami », par exemple. Il ne va pas juste te dire ça. Il désire communiquer à ton cœur sa pensée. Il désire te transformer de l'intérieur. Il désire que ton cœur change vraiment. Il nous donne un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. Donc, il n'y a pas besoin de chaque fois de nous mettre des panneaux indicateurs. Il faut donner tes biens parce que tu vas vivre la générosité naturellement parce qu'elle découle de l'Esprit de Dieu. Elle découle du royaume de Dieu. Dieu, il n'a pas envie de nous dire ce qu'on doit faire. Il a envie de nous communiquer sa pensée, son cœur, sa vie. Il veut vivre pleinement en nous. Donc il n'y a pas besoin de te dire de ne pas frapper ton ennemi parce que son amour remplit ta vie. Il n'a pas besoin de dire attention à tes mots parce que les paroles de ta bouche sont pleines de grâce et d'encouragement pour les autres, alors que tu te laisses remplir par l'Esprit. Il n'y a pas besoin de te dire « Ah, il faut aller aider !» Parce que ton attitude remplie de l'Esprit est une attitude de serviteur. Et puis là, on commence à marcher avec puissance libérée par l'Esprit. On ne comprend plus juste une loi, ou on n'essaye pas juste de comprendre une loi, parce que c'est un petit peu ça, le peuple d'Israël, ils essayaient de comprendre qu'est-ce que Dieu leur demandait de faire. Ils essayaient de comprendre pourquoi, puis de respecter au mieux ce qu'ils arrivaient à comprendre. Mais en fait, Dieu aimerait nous saisir le cœur, nous changer notre cœur, et nous donner sa pensée, sa mentalité, sa vie. Donc en fait, ce que Dieu a sur son cœur est tellement plus large que quelques panneaux, quelques lois, quelques règles. C'était juste le minimum qu'il a pu nous donner pour essayer qu'on reste sur un chemin qui était juste. Mais il veut nous amener beaucoup plus loin. Je termine avec ce troisième point. Là où est l'esprit, là est la liberté parce qu'il nous remplit de son amour. Et Romains 5, 5 nous dit que l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et je suis convaincu que lorsqu'on est rempli de son amour, on devient vraiment libre de nous-mêmes. Et là, je m'adresse peut-être à des gens qui sont emprisonnés des fois dans qui ils sont, qui sont mal à l'aise au milieu des autres, qui osent pas être. Et je crois que là, il y a une clé. L'Esprit te libère à la mesure où tu le laisses te remplir de l'amour de Dieu. Tu n'as pas essayé de plaire aux autres. Tu n'as pas essayé de convenir, mais juste te laisser aimer par Dieu. La parole nous dit que nous sommes fils et filles de Dieu, et c'est une totale preuve d'amour. Si tu as accepté Jésus dans ce lieu, tu es fils et fille. Il est dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. C'est par amour, parce qu'il t'aime, qu'il t'appelle mon fils, qu'il t'appelle ma fille. Et encore ces quelques versets de Romains 12. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui parle à notre esprit, qui dit « Mais tu es enfant, tu es mon enfant, je t'aime. » Romains 8 en parle aussi, mais c'est juste la référence. C'est Romains 8, 14. Mais elle coule pas alors. Romains 8, 14 à 16. J'étais sûr de mon coup, mais... Donc, plus pour être libre, tu as besoin d'être convaincu de son amour de Père pour toi. Tu es précieux, tu es précieuse. Et plus tu découvres cela, plus tu peux avancer dans la liberté. Tu vas être libre de toi-même, libre d'exprimer ta louange. Que tu chantes juste ou faux, en levant les mains, en dansant ou en restant assis sur ta chaise, l'important, c'est que tu puisses exprimer librement ce que tu reçois, ce que tu vis à l'intérieur de toi. Et tu as besoin de savoir que tu es aimé pour cela. Si tu regardes à droite et à gauche, puis tu es bloqué, c'est sûr qu'on n'est pas très doué dans nos relations pour t'encourager. Malheureusement, mais ça va changer. Mais l'Esprit de Dieu peut déverser son amour pour ta vie, pour que tu sois libéré, libre d'être toi-même, libre de dire ce que tu reçois, ce que tu ressens. Amen. Alors je termine avec cette petite conclusion. L'Esprit est synonyme de liberté. Il active l'œuvre de Christ libératrice dans nos vies. Le cadeau de l'Esprit en nous est le cadeau de la nouvelle alliance et de la nouvelle naissance. Donc tu peux librement t'approcher du du trône de grâce. Tu n'as pas besoin de faire des rites, suivre des règles, aller dans un lieu précis. L'Esprit en toi atteste aussi que tu es aimé, fille, fils, et que rien ne peut te séparer de son amour. Il n'y a plus aucune condamnation pour toi qui a accepté Jésus-Christ comme ton sauveur. L'Esprit te connecte au cœur du Père, à la joie du royaume de Dieu, aux principes et aux ressources du royaume de Dieu. Alors je t'encourage ce matin à puiser au bon endroit et sans gêne. Il ne t'a pas libéré pour que tu restes emprisonné de quoi que ce soit ou que tu restes sans ressources. Parce qu'il a tout pour toi.